Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. 2015. 2015 s'annonce chaotique. Charlie est sur toutes les lèvres et Gauthier fait une crise de foi. Un peu de recul. Émilie nous parlera du Bouteau, danse libre et subversive. Enfin, l'équipe accueille un nouveau membre, Jean-Pierre Boucan, perchiste fou. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 17e numéro. C'est la rentrée de Micro-Cravate qui fête sa première année sur les ondes de choc. Avec vous, Anna Massé et Gauthier Piatek.
Salut Anna, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, 11 janvier, on a à peine émergé des fêtes que 2015 nous arrive comme une claque.
Que nos esprits s'épanouissent.
Et l'actu, comment ne pas en parler? Depuis l'attentat à Charlie Hebdo, mercredi 7 janvier, des manifestations ont lieu un peu partout en France et dans le monde, dont ce dimanche, pour un rassemblement historique. Gauthier, le jour de l'attentat, tu t'es rendu avec Sophie Poisson et Paul Venet devant le consulat général de France à Montréal.
Oui, on s'est joint à la foule et j'ai laissé mon micro capter le ressenti de ces expatriés français. On les sent touchés par la tragédie survenue à plusieurs milliers de kilomètres de Montréal.
On écoute.
C'est une attaque juste à tout être humain sur Terre aujourd'hui, de tuer des gens si gratuitement et pour une simple... un simple dessin, une simple parole. Donc en fait, on est français, on est tous pour Charlie Hebdo, on est surtout des êtres humains en fait. Et c'est très très malheureux aujourd'hui. Je suis français, je suis à Montréal, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça nous rapproche encore plus de notre France en fait. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que c'est dans des moments comme ça qu'on se sent encore plus français. Et puis quand on voit que nos compatriotes, nos amis, nos familles sont touchés comme ça aussi, aussi violemment, ça nous rapproche. Donc c'est beau de voir aujourd'hui qu'il y a près de peut-être 3000 personnes là, devant le consulat de France et puis de voir qu'on est tous ensemble. Et puis je pense qu'il y a eu des rassemblements dans le monde entier aujourd'hui et c'est ça qui est fabuleux.
J'ai appris ce matin la nouvelle, c'est ma copine qui arrivait dans la chambre en pleurant parce qu'elle avait vu les infos et j'ai pleuré avec elle.
Pour toi, qu'est-ce que ça fait de venir ici? C'était un message à faire passer
C'était déjà pour pas me sentir tout seul, parce qu'en tant qu'expat, c'est un peu compliqué des fois. Et c'était ça, c'était pour partager un peu ça avec tout le monde.
Je vois que t'as un crayon à la main, tu peux m'en dire un peu plus?
C'est un truc que j'ai vu sur internet, ils ont fait ça en France pendant les rassemblements. Tout le monde a sorti son stylo parce que c'était les mecs, c'est ça qu'ils utilisaient comme arme face à tous ces gros tarés qui sont arrivés avec leurs armes. Et eux, ils avaient juste leur stylo. C'est pour ça que tout le monde sort leur stylo et tout le monde le montre. C'est la chose la plus horrible que j'ai vue. Et je pense que ça va choquer pendant pas mal de temps et j'espère que ça va permettre qu'on s'unisse et qu'on soit genre, c'est ça, plus fort face à ces connards.
Je pense qu'ils ont, avec cette atrocité, ils ont prouvé ce qui pouvait les vulnérabiliser, c'est-à-dire que la seule chose qui pourrait les arrêter, c'est les idées, et que même si ces gens sont morts, on est là pour continuer à faire passer ces idées, puis que chaque personne doit être vecteur de ce qu'ils ont pu dire et de ce qu'ils ont pu faire. Mais je pense juste qu'il ne faut pas, au contraire, au lieu d'être démoralisé, au lieu de déprimer et de se sentir impuissant, il faut juste se dire que ça doit nous renforcer et que ça doit nous redonner une vitalité pour continuer à faire passer toutes ces idées-là.
Liberté, 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 liberté,
camion a damné une sainte. Ce garçon dans son blue jean a ce petit rien qui rend dingue, qui fait waouh. Beau comme une meuf, il porte le rouge aux lèvres. Il a la bouche baladeuse et me donne la fièvre. Des baisers qui piquent encore et encore. Embrasse-moi chérie, au fond je rêve que tu me dévores. Mange-moi comme toutes les jupes du quartier. Je passe le plus clair de mes nuits à prier. Qu'un jour tu fasses de moi ta poupée chat, chérie. Ton indifférence est si sexy. Oh chat, chérie. T'es beau. Par en dessous, ce regard-là n'est pas légal, pas autorisé du tout. Tu disais quoi? Amère et sucré comme un chocolat chaud. Fais chavirer la chair et l'amour, fais-moi le chaud. Fais-moi mal, Charlie, Charlie, oh Charlie. Amour haché de sa petite gueule d'allumeur. Maladroite pour tenir droite, je m'accroche au flipper.
Dans ce monde de brut, on part vers l'Est avec Émilie Pongo. À Bruxelles, elle a rencontré Anne-Laure, danseuse de Buto, cet art qui prend ses origines au Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Souvent considérée comme une référence directe à Hiroshima, son propos est plus subtil. Face au traumatisme, inventer un nouveau corps.
J'étais d'abord danseuse contemporaine et c'était à l'occasion d'un petit festival organisé par des amis. Et il y avait deux Japonais qui ont fait deux petites performances dans une église de campagne. Voilà, c'était ma première rencontre avec des musiciens qui jouaient. Et c'était vraiment une grande claque esthétique, voilà. En fait, ça a généré une émotion qui n'était pas tant parce que je trouvais ça joli, mais parce que c'était quelque part quelque chose que je percevais dans leur engagement, dans le corps, l'énergie qu'ils y mettaient, cette espèce de quête qu'ils avaient. Ça m'a paru extrêmement mystérieux et en même temps vraiment très 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 beau. En fait, quand j'ai eu cette claque esthétique, j'ai décidé de me tourner vers le buto. Donc je suis partie, j'ai organisé un voyage au Japon. J'étais déjà dans des études d'anthropologie. Et donc j'ai décidé d'écrire une thèse en anthropologie de la danse d'abord, puis après en art de la scène, du théâtre. Et c'était vraiment une façon de joindre un peu à la fois l'apprentissage pratique là-bas, et puis que j'ai continué en France après, et l'apprentissage théorique, comprendre, aller à la rencontre des démarches des danseurs, rentrer dans leur univers, les interroger, observer. Voilà, tout ça faisait partie de ma propre quête en fait. Ce qui peut être commun, on va dire, à tout chercheur en buto, parce que ce serait plus la notion de chercheur, en fait, c'est on construit son corps, le corps avec lequel on veut danser. Donc, si je veux construire un corps qui est disponible et à l'écoute, alors il va falloir que je travaille la présence, il va falloir que je travaille mon axe vertical, il va falloir que je travaille mon rapport des pieds au sol. Je vais créer le corps dont j'ai besoin pour danser. Alors oui, il y a des techniques qui sont communes, notamment pour avoir cette capacité à danser avec ses rêves ou avec des images, l'imaginaire. Bah, ça ne se fait pas tout seul. Comme ce n'est pas du pantomime, on va essayer de comprendre comment devenir ces images, comment se métamorphoser, voilà, rentrer dans une durée pour ça, etc. Donc oui, il y a des outils en réalité pour faire ça. Mais... Après, voilà, chacun à sa façon. Il y en a qui te diront, non, ce qui compte, c'est le présent. Moi, je pense que c'est important un peu d'affûter son instrument pour pouvoir faire ça. Il y a du butothérapie, ça existe au Japon. Enfin, en tout cas, j'ai rencontré ça là-bas. Donc oui, il y a des gens qui vont se dire oui, ça peut être bénéfique pour trouver un peu de joie dans son quotidien, développer un rapport au corps qui est en lien avec le rêve, l'imaginaire, et ça nourrit, ça fait du bien. Personnellement, je ne suis pas du tout dans cet axe-là, parce que pour moi... La notion même de buto, elle est avant tout artistique. Elle n'est pas dans une notion de bien-être ou de développement personnel. Même s'il y a des gens, et je le reconnais, qui iront chercher ça.
Lorsque des gens qui ne sont pas des artistes vont s'initier, par exemple, le week-end prochain à la danse buto, ça reste quand même une démarche artistique, alors pour toi, même s'ils ne sont pas forcément danseurs?
Bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas professionnellement artiste qu'on n'a pas accès, justement... À goûter ce qu'un danseur peut transmettre de son univers, de sa façon de modeler le corps, etc. C'est comme si on avait accès à une petite bulle comme ça, très singulière. Et c'est à mon avis l'intérêt aussi, quand on est artiste, on peut transmettre ça à travers une performance, mais on peut aussi transmettre ça à travers un stage justement. Et je trouve que c'est génial que des gens qui ne sont pas des artistes y aient accès, y goûtent. Et de toute façon, encore une fois, chacun en fera ce qu'il en veut et ce qu'il en peut. Donc il y a des gens, ça va leur faire du bien, point barre. Et c'est aussi très bien comme ça, tu vois.
Je me demandais, mais quel est le regard que tu poses sur les danses comme, je vais dire, la salsa, le hip-hop, toutes ces danses-là, quand on découvre le buto qui est très... Il y a une notion, enfin, beaucoup de philosophie, de spiritualité, il y a beaucoup de concepts aussi. Comment est-ce qu'on voit les autres danses après avoir connu ça?
On a envie de s'y intéresser aussi. Ça rend encore plus curieux parce que je crois que chaque danse est porteuse d'une vision du monde, en fait, réellement, vraiment, vraiment. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est qu'en fait, aller être porteur d'une danse, c'est comme c'est être porteur d'un monde, d'une spiritualité, d'une philosophie. Souvent, c'est méconnu. Tu vois, tu parles de salsa, je connais très peu, mais je pense qu'en creusant un peu, ne serait-ce que sur les origines, etc., on peut aller chercher des choses, tu vois, de cet ordre-là. Donc ça me rend curieuse. J'ai envie de découvrir d'autres danses, les danses africaines, les danses... je sais pas, moi.
La Zumba.
La Zumba, bah, oui, tiens, allez. Bon, voilà. Ouais. C'est vrai que ma passion, c'est le buto, parce que je reconnais en elle, effectivement, une voie de recherche qui est infinie. Et comme disait justement un des chorégraphes avec qui j'ai dansé, c'est justement parce qu'elle est infinie qu'on continue de danser, qu'il y a une espèce d'inaccessible. Et c'est ça qui fait la quête, en fait, tu vois. Avec la chose la moins rationnelle qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, et c'est accepter de faire ça qui rend cette danse magnifique, en fait.
Down below, it's Jordan. Show the play, dog.
On laisse la parole à Gauthier qui vient nous délivrer sa première chronique de l'année. Une chronique un peu énervée.
Qui c'est ce tocard ?
C'est Nox.
Cravate de Pecno, aucune classe.
Micro cravate.
Comme le dit si bien le crooner de ces dames Elvis Presley, aime-moi tendre, aime-moi vrai. Et de l'amour va bien en avoir besoin en ce début d'année, tellement le tableau de base a l'air dégueulasse au point de faire vomir un non-voyant esthète. Et oui, c'est 2015, meilleurs vœux à toi auditeur et plein de bonnes choses malgré l'ambiance délétère et lourde qui pèse sur cette nouvelle année. On se réveille un peu avec la gueule de bois, comme si on avait abusé des bonnes choses. Trop de mélange vin rouge, vin blanc, whisky, sortilège, Zubrovka. Et on fait repasser en sens inverse au mars, saumon, foie gras, poutine, choucroute, couscous, chocolat, dinde, marron, barré la mention inutile. Donc, on se retrouve à démarrer l'année avec le massacre de journalistes, économistes, dessinateurs, concierges et policiers par deux hommes armés, deux fanatiques qui ont commis un attentat contre Charlie Hebdo, le journal satirique. Et en tant que Français qui voit ça depuis l'autre continent, ça fait mal au cœur. J'ai mal à mon pays, comme on dit. Certes, Charlie avait ses défauts et n'était pas toujours drôle, mais voir mourir les caricaturistes qu'on connaît depuis tout petit, ça fait bizarre. Il y a aussi la poursuite de la politique d'austérité ici au Québec, parce que c'est plus drôle quand on coupe les budgets de l'éducation et des services publics, avec moins de services aux familles, aux personnes âgées, la suppression de l'aide aux devoirs, du soutien à la création d'emplois et j'en passe, 2015 va être très fun pour les Québécois. N'oublions pas non plus que pendant qu'on manifeste pour Charlie, c'est 1100 postes qui seront supprimés à la SNCF en 2015 et que l'on se tâte à sortir la Grèce de l'Europe et qu'au Nigeria, 16 villages viennent d'être rasés par Boko Haram. Sinon, le métier de journaliste fait partie des 15 pires métiers de l'année 2014 et il ne faut pas oublier non plus qu'il est l'un des moins bien payés. Coucou à nos amis pigistes. Enfin, faut pas oublier que cette nouvelle année peut aussi être synonyme de renouveau, de défis et de bonnes nouvelles. Enfin, on espère. Bon. Même pas peur, mais putain, 2015 vient de commencer et j'ai déjà hâte qu'elle finisse.
Clubs dans un blocos noir parce que je suis déprimé.
Micro-cravate.
Et parce que 2015 apporte aussi son lot de bonnes nouvelles, l'équipe de Micro-cravate est heureuse d'accueillir un nouveau membre, Jean-Pierre Boucan, dompteur de son. À l'aide de sa perche en forme de filet à papillon, Jean-Pierre capture les bruits de la jungle urbaine et les apprivoise. Aujourd'hui, Jean-Pierre Boucan a trouvé un magnifique spécimen de lave-linge. Il lui a appris à danser la valse, à imiter un train, un hélicoptère et à chanter sur de la musique techno. C'était Micro-Cravate. On remercie les journalistes et artistes qui ont participé à l'émission, ainsi que tous ceux qui entament l'année avec du cœur au ventre. Micro-Cravate revient le 8 février. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous avez rendez-vous avec Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need two words.
Okay.
Micro cravate.